L'invité du samedi, le nouveau rendez-vous de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h40 sur Cocktail FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du samedi sur Cocktail, et nous allons parler culture aujourd'hui puisque c'est le sculpteur Francis Cuny que nous recevons aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Francis Cuny.
Bonjour.
Vous êtes donc sculpteur désormais bien connu dans les Vosges et vous avez cette particularité de sculpter différentes matières, le bois, les arbres mais aussi la neige et la glace. Alors avant d'aborder justement ces différentes matières, première question, comment êtes-vous devenu sculpteur, pardon, en quelques mots ?
En fait, j'étais bûcheron donc à l'époque dans cette forêt vosgienne, et il y a un événement un peu particulier qui s'est traduit à l'époque la fin des années 60, c'était les fameux concours de bûcherons. Et il y a Maurice, donc un bûcheron de la Bresse à un moment donné, qui m'a invité en disant là il faut des jeunes, il faut que les jeunes se mettent à participer, disons, à ces fameuses épreuves un petit peu démonstratives, des bûcherons avec tronçonneuse, hache, etc. sur la place publique. Et du coup il y avait une épreuve qui m'intéressait vraiment fortement, c'était l'épreuve artistique, où les bûcherons s'exercent à sortir d'un volume de sapin une petite une figure, un animal, ou et là j'ai trouvé vraiment la réponse à ce que je cherchais depuis un moment là, et voilà.
Et ça c'était il y a combien de temps à peu près?
Et ben là c'était en 69 à Brouvelières par exemple, ensuite ça a été à Remiremont donc dans le cadre d'une fête d'automne, d'une foire même d'automne, ensuite ça a été sur l'Alsace également, et voilà, ça a été une manière, disons, de faire avec des troncs d'arbres comme ça qui étaient à la portée de ma main, et la tronçonneuse, l'outil que je connaissais bien, une manière, disons, voilà, de donner une manière de s'exprimer d'abord, et puis de rencontrer le public qui, de toute façon, était là de façon présente et permanente.
Vous êtes vosgien d'origine, vous êtes devenu bûcheron dans les Vosges, vous êtes vosgien.
Disons, de famille de bûcherons et d'agriculteurs de tout temps. Et je me souviens que dès que j'ai pu monter sur le strap qu'on appelait de la moto de mon père pour l'accompagner en forêt à l'époque, c'était vraiment une joie, quoi. J'étais toujours avec lui. Et du coup, mon avenir à l'époque était bien tracé. C'était pas tellement l'usine, disons, textile à l'époque où j'aurais pu travailler de façon naturelle, parce qu'on habitait dans une maison qui appartenait à une usine, à Ventron, mais vraiment la forêt.
Donc là déjà une attirance pour le bois, alors qui est l'une des matières que vous sculptez, mais alors ce n'est pas la seule. Justement, vous, comme on le disait tout à l'heure, vous sculptez plusieurs matières, aussi la neige, la glace, les arbres. Pourquoi avoir choisi de sculpter ces différentes matières? Pourquoi ne pas s'être cantonné seulement au bois?
En fait, c'est l'attirance pour la diversité, je pense, les matériaux nobles. D'une part, et là, alors la neige et la glace, c'est par nature le matériau noble avec l'eau qui est le fil conducteur, qui en hiver se trouve stabilisé par le froid. Et c'est vrai que, par exemple, lorsqu'on est bûcheron, on a tendance à voir les choses, disons, un peu au carré, c'est-à-dire au mètre cube, cet arbre-là, combien il va faire de stères, enfin, etc. Et en fait, on passe un peu de ces lignes droites pour aller vers la souplesse, les lignes courbes, et la sculpture, la tronçonneuse le permet, par exemple, et tout ce qui est neige et glace, par exemple, c'est, alors, il y a des dimensions, il y a des transparences qui s'installent, c'est des volumes de lumière qu'on a dans les mains, et forcément, il y a cette attirance pour la matière, puis aussi pour le jeu de travailler en équipe, et puis à partir de là la rencontre des visiteurs, quoi. Je crois que là vraiment je pense que c'est là le fond de ma nature, c'est la rencontre, le besoin de, par quelque moyen que ce soit, quelque part, quand vous voyez un artiste ou quelqu'un sur un trottoir avec une craie dessinée, voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Les enfants sont là, on partage cet esprit. Et voilà, je crois qu'avec le bois ou la neige, le granit, on est dans cet esprit-là.
Et justement, alors vous n'aimez pas travailler seul, en fait, vous aimez travailler quand il y a du monde autour de vous, soit des spectateurs, soit en équipe, comme vous le disiez.
Ça a été, il y a des grandes périodes de travail solitude à l'atelier qui est à la part une concentration, une recherche, peut-être même un petit peu d'intimité quelque part pour essayer d'élaborer des projets. Par exemple pour la neige, ce sont les visiteurs à l'atelier de Trévexin, donc j'exposais à l'époque dans les années 80, début des années 80, et ce sont les visiteurs qui m'ont parlé de Valoir. Et c'est là qu'on a tenté l'aventure avec les amis sculpteurs, donc Christian Claudel à la Bresse, on est descendu à Valoir et on a participé en remplacement d'une équipe. Et du coup, voilà, on s'est trouvé, alors là c'est vraiment l'effet boule de neige, on était invité en Finlande, ensuite on a travaillé au pôle Nord magnétique sur un iceberg, après ça a été la Chine, Après, c'était l'Alaska, et voilà, boule de neige, je vous dis.
Alors justement, ben, j'allais vous poser la question. Vous avez beaucoup voyagé pour réaliser vos œuvres, hein, donc en France, mais aussi à l'étranger, ben, comme vous venez de le dire. Quel pays avez-vous visité, outre ces pays que vous venez de nous citer ?
Il y a la Chine qui a été le point d'orgue, parce que c'est là, vous voyez d'ailleurs tout le début d'année, suite à la rencontre de sculptures de glace, il y a dans tous les médias l'image des fabuleuses constructions en glace illuminées, enfin bon. Et par contre, il y a un continent que j'aurais bien aimé encore visiter, c'est l'Afrique, où on est vraiment invité en tant que sculpteur, travailler le granit et le bois, et je n'ai pas encore pris le temps là, mais ça va venir.
Donc peut-être pour un projet futur, l'Afrique. Mmh. Pour en revenir aux matières différentes que vous sculptez, au niveau de la neige et de la glace, est-ce qu'on ressent une certaine frustration quand la sculpture s'en va, quand la neige fond ou la glace fond ?
Ah là, c'est la belle question du public en permanence. Pourquoi vous allez vous geler les mains là, alors que ça repart et que ça fond ? En fait, c'est peut-être là qu'on comprend mieux le moment présent, vivre le moment voilà, qui passe, quoi. Et c'est vrai qu'on est dans on est même quelquefois dans des turbulences avec le radoucissement, et du coup on essaye quand même. Et il y a aussi une solidarité qui se développe avec les équipes de sculpteurs qui sont là en besoin de voir des sculptures s'élever. Et si chacun restait dans son propre travail personnel, on arriverait peut-être au premier étage de la sculpture. Sinon, là, ensuite, il y a tout un phénomène d'enthousiasme et d'énergie qui se traduit par ces rencontres, publiques à la fois et collectives, quoi.
Est-ce que vous avez une matière préférée à sculpter ?
C'est sûrement celle que j'ai pas encore tentée ou essayée. C'est, par exemple, la glace donne l'envie du verre et du cristal. C'est clair que là, on est dans des besoins d'équilibre en même temps entre le passager éphémère et puis le permanent transparent. Et disons que c'est petit à petit la route qui fait la rencontre autant des matériaux que des événements, que des surprises. Et ça, c'est un petit peu le sel de la vie, là. J'avoue que je suis vraiment dans une belle aventure.
Donc là, encore un autre projet avec l'Afrique. Voilà, deux projets déjà.
Pourquoi pas.
Aujourd'hui, vous vivez de votre art ?
Ah, vraiment, là, c'est la question entre vivre de son travail et vivre sa vie, on peut dire comme ça. Il y a Boris Vian qui disait « Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai ». Et j'aime bien cette formule, elle est peut-être un peu royale, en fait. Et du coup, moi, j'essaie de trouver les moyens de vivre à travers mon métier ou avec mon métier, mais j'ai toujours plus de projets que de moyens. Alors du coup, ça, depuis 40 ans, vous voyez, je suis encore là, finalement, en équilibre.
Alors, en décembre dernier, vous avez sorti 4 livres, justement retraçant ces 40 ans de carrière, hein, par des photos, par des textes de vos différentes œuvres. Mais alors, avant d'en parler justement de ces ouvrages, nous allons faire une pause musicale. Et comme vous êtes l'invité, Francis Cuny, c'est à vous de choisir la pause musicale de cette émission. Quelle chanson avez-vous choisi ?
Ah ben allez, avec Brassens, Les Copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Et vous venez d'entendre Les Copains d'abord de Brassens, ce morceau choisi par notre invité du samedi, Francis Cuny, sculpteur qu'on ne présente plus ici dans les Vosges. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Francis Cuny ?
Peut-être l'esprit d'équipe et puis aussi le personnage, l'ami Georges qui lui traverse le temps et voilà, toujours là.
Alors nous avons parlé de votre métier de sculpteur dans la première partie de cette émission et de votre particularité puisque vous sculptez différentes matières. Et justement, vous avez sorti en décembre dernier 4 livres retraçant vos plus belles œuvres. Vous aviez besoin de retrouver sous vos yeux la plupart de vos œuvres. Pourquoi avoir choisi d'exposer ainsi ces œuvres ?
De poser sur le papier les images de l'aventure depuis 40 ans, ben ça c'est un peu comme un fruit mûr, voilà, un fruit qu'on partage. C'est le moment de se poser d'abord, peut-être en même temps de mieux repartir vers d'autres horizons. Moi j'ai toujours été passionné par l'architecture, par exemple, hein, je vous dis comme ça, et puis aussi par le jeu. Je pense que les sculptures à l'avenir, elles méritent d'entrer dans le jeu et de jouer avec les enfants. Et le bois de séquoia, par exemple, que je travaille depuis une dizaine d'années en Limousin, et que je rencontre maintenant sur les Vosges également, des arbres qui sont déjà, on appelle ça, qui ont souffert des tempêtes ou qui sont déjà très vieux. Et du coup, rendre hommage aux arbres qui ont vécu leur vie à travers le jeu et le mouvement, et grâce aux enfants, là, voilà, ça c'est par exemple une direction.
Donc c'est une sorte de bilan un peu que vous faites là sur ces 40 ans de sculpture.
C'est un état des lieux, c'est surtout une façon de partager, parce qu'en fait comme je travaille sur différentes régions et aussi en équipe, on est disons là avec la neige d'hiver, c'est une façon de partager l'ensemble, et beaucoup d'amis se rendent compte qu'il y a une saison qu'ils ne connaissaient pas bien, par exemple parmi ces 4 livres, et là il y a un phénomène nouveau, c'est, alors ils me disent les amis, bon d'accord les livres c'est bien, mais maintenant il va falloir refaire des sculptures, nous on t'en commande ce coup-là. Et bon, c'est très agréable de se retrouver à une table de dédicaces, à revoir les amis qui viennent de 40 ans, c'est vraiment cette aventure qui nous relie, et voilà, c'est un jeu et à la fois un peu comme une étincelle qui ne demandait qu'à exister.
Alors vous nous parliez de saison, justement, vous aviez divisé vos œuvres en 4 livres justement par saison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce principe pour les auditeurs ?
En fait, c'est un grand livre, oui, effectivement, divisé par 4 qui se retrouvent sur une table, tout de suite parti en étoile, avec chacun selon l'intérêt des amis autour de la table. Mais alors, c'est vraiment les 4 saisons. Alors, le premier livre, donc, avec Joss, on part avec l'enfance du printemps. Hein, ça, c'est vraiment l'enfance racontée, c'est des histoires racontées avec mes filles à l'époque, qui m'ont demandé de dessiner ce petit personnage. Ensuite, c'est l'aventure du bois et du granit à travers l'atelier de Trévexin et puis les lieux de symposium autour du bois et du granit, donc. Et ensuite, alors, les séquoias, c'est un petit peu la saison d'automne, c'est la récolte, c'est les arbres qui tombent, mais à la fois qui renaissent et qui retrouvent une deuxième vie grâce à la sculpture. Et puis l'hiver, ce fameux hiver où la glace et la neige sont la belle matière et le bel esprit.
Alors vous nous disiez que justement avec ce petit personnage, Joss, qui est donc le printemps, vous racontiez cette histoire à vos filles. En fait, c'est un petit personnage en bois. C'est un peu ça aussi, sculpter, c'est raconter des histoires.
Ah, je crois que la sculpture, elle est sûrement née avec les histoires que nous racontait ma grand-mère, qui avait toujours, alors probablement, je me souviens plus bien, mais des histoires vraies, quoi, hein, des histoires de la montagne. Et du coup, c'est un peu comme les histoires qui traversent les générations, effectivement. C'est une dédicace, en tout cas un clin d'œil à ma petite fille qui est née il y a un an et demi maintenant, la fille de Cécile, je crois que j'ai commencé à écrire le livre quand Cécile a commencé d'attendre Nina, quoi. C'est étonnant comme phénomène. C'est un jeu de circonstances et absolument incontournable, quoi. Le jeu dans la vie et voilà, la fantaisie. Ce petit bonhomme, il est parti sur l'idée de la poire. C'est vraiment le fruit que je préfère. Et ensuite, il a un petit nez de clown qui est vraiment le personnage ou l'homme ou l'humain que je préfère également. Et puis, il se dandine un peu comme un canard. Donc, c'est vraiment les trois dimensions, on pourrait dire, de la fantaisie et du jeu à partir duquel, effectivement, les histoires racontées aux enfants qui me demandent de le dessiner et de le sculpter. Et ensuite, il y a toute une génération de gens qui se sont décidés de faire des cadeaux, de se l'offrir. Et je me souviens d'une personne qui, en se rendant au Canada par avion, a gardé le Joss sur ses genoux de peur de le mettre dans une valise, de le coincer puis de le casser dans le transport. Et du coup, cette personne a raconté des histoires, les histoires de l'atelier aux gens du voyage dans l'avion. Et je trouve ça, c'est vraiment un peu comme une suite de fantaisie.
Alors, dans ce livre-là, justement, dans Joss et compagnie, on retrouve des textes, mais aussi des croquis, alors dans les autres livres aussi, mais c'était une façon supplémentaire de plonger le lecteur dans votre univers.
Bah peut-être aussi, mais de garder l'équilibre entre le dessin, le mot et puis la photo. Joss, c'est pratiquement comme une bande dessinée quelque part. Et je me souviens à l'époque, des amis m'avaient invité à Angoulême au salon de la bande dessinée et m'avaient dit, écoute, au moins tu pourras apporter des dessins en trois dimensions, c'est pas mal non plus. Et voilà, dans les quatre livres, c'est ça, j'ai une manière de raconter l'histoire telle qu'elle est, naturellement, mais en même temps de jouer avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le dessin et les photos de sculptures que j'ai réalisées. Et puis aussi, le fil conducteur, les mots. Vous savez que ce qui est intéressant, c'est que entre l'arbre et le livre, le livre vient de libère. Et libère, c'est la partie par laquelle ou sous laquelle l'écorce monte sous l'écorce, enfin la sève monte sous l'écorce, pardon, dans les arbres. Et moi, je trouve ça fabuleux, quoi, d'être au carrefour entre l'arbre et le livre qui a traversé le temps et qui continuera encore, avec les pages qui s'ouvrent et qui s'envolent quelque part. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir.
Alors, on va parler un petit peu de vos projets pour 2013. Vous nous parliez de l'Afrique tout à l'heure, vous nous parliez aussi du cristal, donc j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus lointain. Pour le moment, vous aviez déjà des projets bien établis pour 2013. Quels sont-ils ?
Pour 2013, il y a peut-être un projet avec Gérardmer, cette belle ville d'ici, qui, avec les gros tilleuls, sont tombés lors de la tempête, les tilleuls de la Trinité. On est en réflexion pour l'instant, donc d'un beau projet qui mettrait en valeur ces gros tilleuls de plusieurs fois 100 ans, vers l'entrée du lac et au bord du casino, là. Et voilà, on est en train de réfléchir quelles sont les possibilités de mettre en valeur ces beaux arbres-là, qui ont un peu comme un hommage aux arbres qui sont tombés, permettre aux gens de se poser et d'admirer l'horizon et aussi de se rencontrer.
Eh bien, merci Francis Cuny d'être venu nous rendre visite aujourd'hui sur Cocktail. Où peut-on se procurer vos livres ?
Maison de presse et librairie de la région, hein, Gérardmer, Remiremont, Saint-Dié, Épinal et Nancy aussi. Et aussi l'atelier, donc Trévexin et Trougemont. Là, on va s'absenter, disons, pour la période d'hiver, mais n'hésitez pas à nous contacter. On trouvera le moyen de vous faire suivre ces livres et de vous les présenter.
Donc pour le tarif, pour les 4, de 96 euros.
Voilà, c'est ça, les saisons réunies, 96 euros.
Ouais. Eh bien, merci aux auditeurs également de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'invité du samedi sur Cocktail. En attendant, bonne journée à l'écoute des programmes et puis tout de suite un point sur l'info nationale et internationale.
L'invité du samedi, le nouveau rendez-vous de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h40 sur Cocktail FM.